Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Sortir du capitalisme pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à une histoire de l'anarcho-syndicalisme en Espagne entre 1910 et juillet 1936 et des débats qui ont agité l'anarchisme espagnol autour du communisme libertaire, donc entre la fondation de la CNT en 1910 et juillet 1936, le déclenchement de la révolution espagnole. Et on rappelle simplement qu'on a déjà consacré une émission sur la période avant 1910, autour du premier volume de la trilogie des chemins du communisme libertaire en Espagne, qui s'intitulait « Et l'anarchisme devint espagnol », sur lequel on va revenir brièvement au début d'émission, et qui se situe avant le dernier volume qui s'occupe donc de la révolution espagnole, sur lequel, par ailleurs, on a déjà fait une émission avec les géminologues, qu'on reçoit d'ailleurs aujourd'hui pour nous parler du deuxième volume des chemins du communisme libertaire en Espagne, un volume qui s'intitule « L'anarcho-syndicalisme travaillé par ses prétentions anticapitalistes ». Donc bonjour Myrtille et Vincent.
Et salut.
Salut.
Alors aujourd'hui on va parler d'une période charnière de l'histoire de l'anarchisme espagnol, avant la révolution espagnole proprement dite, et après une période qu'il faudrait maintenant peut-être résumer à grands traits pour qu'on comprenne d'où on part en 1910 et de la fondation de la CNT.
Donc on va commencer par une petite citation pour rappeler dans quel contexte l'anarchisme devint espagnol, en rapport avec ce qui se passait au sein de l'AIT et de l'AIT anti-autoritaire, l'AIT étant l'Association internationale des travailleurs. On va vous citer un petit extrait.
De la scission dans la première internationale à la Grande Guerre, l'anarchisme est devenu le refuge de tous ceux qui n'acceptent ni l'intégration du mouvement ouvrier dans la reproduction dynamique du capital, ni le sacrifice du but final. Ce mouvement devint le lieu de regroupement des gens et des idées communistes révolutionnaires, combattant l'idée marxiste de la nécessité d'une période de transition, où de nouvelles formes de domination étatique viendraient immanquablement prendre la place des anciennes. C'est une citation de François Danel, en 2003.
Donc voilà dans quel contexte l'anarchisme devient espagnol, pour reprendre la formule du premier volume, à la fin du 19e siècle. Dans ce premier volume, j'ai voulu reconstituer le chemin parcouru par les idées et pratiques élaborées dans le creuset de l'AIT anti-autoritaire, avant et après la Commune de Paris, et leur combinaison avec les luttes des classes populaires espagnoles, spontanément anticapitalistes, anticléricales et anti-étatistes. La Fédération régionale espagnole, dans la section espagnole de l'AIT, devint assez rapidement la plus forte de l'AIT. Assez vite, 40 000 travailleurs ont organisé les bagarres sur les lieux de travail et dans les lieux de vie, en Catalogne, dans le Levant et en Andalousie. Au sein de ce mouvement surgiront des associations ouvrières, des sociétés ouvrières, des proto-syndicats, si on peut dire, et des groupes anarchistes, des premiers groupes d'affinité anarchistes, qui sont deux éléments constitutifs du mouvement libertaire espagnol. Et ces groupes-là vont jouer un rôle très important en Espagne pour pousser, toujours mettre en avant les idées anarchistes liées aux luttes sociales, revendicatives ou insurrectionnelles. Ils disaient même à la fin du XIXe siècle, nous voulons libérer la propagande des idées du poids de la mission de pure défense ouvrière. Voilà, ça ce sont les rudiments de l'anarcho-syndicalisme proprement parlé, même si le terme ne va pas exister officiellement avant les années 20. Donc ces groupes vont impulser et nourrir des débats, pratiques et projets qui resteront après eux. Le communisme libertaire, ennemi de toute forme de salariat. Les groupes d'affinité, les groupes structurés, un peu informels, hein, des groupes qui se constituent, se font en fonction des actions qui se proposent de mener. Et une critique de l'organisation fétichisée, après bien des polémiques que je décris dans le volume 1 entre anarcho-collectivistes et anarcho-communistes. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça nous amènerait à parler un peu trop longtemps, donc je renvoie au volume 1. Et tout ça nous amène aux années 1910, au début du XXe siècle, où après des moments très très durs de répression et de désespérance, le mouvement ouvrier se reconstitue et retente de s'organiser à travers la création de la CNT, la Confédération Nationale du Travail, qui au départ est une initiative de socialistes espagnols qui propose aux gens de la FRE, en voie de dissolution, de s'organiser en syndicat. Ça va s'appeler au début Solidarité Ouvrière. Ensuite, la CNT va se constituer avec socialistes et anarchistes, puis évoluer de plus en plus vers une prépondérance des anarchistes, jusqu'à son deuxième congrès en 1919, où là, la CNT se propose comme finalité le communisme libertaire. Avant, on n'en parlait même pas, c'était quelque chose qui était un peu enfoui dans les soutes du mouvement.
Et donc, finalement, cette création de la CNT, c'est tout ton chapitre, du chapitre 2, du volume 2. Mais peut-être ce serait intéressant d'abord, rapidement, parce que dans ton chapitre 1, tu abordes quand même, tu apportes des éléments nouveaux sur ce qui se passe dans l'anarchisme, disons à un échelon mondial avant 1914, et qui joue quand même un rôle dans la constitution de la CNT, notamment comme au début mouvement de syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire pas officiellement anarchiste, comme ce qui se passe en France à la même époque avec la CGT, même si la CGT voilà, est très influencée par les idées anarchistes, notamment au niveau d'une minorité révolutionnaire qui est assez présente dans ses principaux organes. Et donc, cette émergence du syndicalisme révolutionnaire, elle correspond aussi à une réaction contre la social-démocratie, contre le syndicalisme réformiste, donc qui maintenant a une certaine importance dans pas mal de pays, notamment en Angleterre, et contre le marxisme. Donc, est-ce que, simplement, on peut revenir sur un petit peu ce qui pousse, disons, à une échelle internationale, à la fondation du syndicalisme révolutionnaire en Espagne. Même si après, on va revenir évidemment sur la spécificité espagnole, qui est indéniable, puisque en 1919, la CNT est anarcho-syndicaliste, entre guillemets, alors que ailleurs, notamment en France, le syndicalisme révolutionnaire finit par être complètement noyauté par les bolcheviks.
Quand je parle de la CNT qui se constitue en 1910, ils héritent de tout ce mouvement syndicaliste révolutionnaire, issu de très près tout ce qui se passe en France, la création de la CGT, les débats internes, les polémiques, etc. Cette idée du grand soir, de la grève illimitée, de la grève générale, toutes ces thématiques-là sont immédiatement traduites par des anarchistes ou des syndicalistes espagnols et étudiées, analysées et prises en compte. Mais dès le début, ce qui va être dans l'histoire, une permanence dans l'histoire de la CNT, il va y avoir les partisans du syndicalisme révolutionnaire qui laissent de côté tout ce qu'ils appellent la politique ou les idéologies ou en gros les idées anarchistes, et les anarchistes à l'intérieur du mouvement qui, eux, comme je l'ai dit au début, auront en permanence cette volonté de ramener la finalité anarchiste de toute lutte sociale engagée dans les lieux de travail et en dehors des lieux de travail. En France, les groupes anarchistes vont rester très très minoritaires. Il y a aussi le grand débat de 1907, du congrès d'Amsterdam en 1907, où il y a un grand débat au niveau de l'internationalisme anarchiste qui estime qu'il faut effectivement commencer à mitiger l'anarchisme et les luttes syndicales. Il y a tout un débat de fond là-dessus. Les anars espagnols vont aussi hériter tout ça, mais eux vont maintenir une présence et une intervention des groupes et des idées anarchistes de manière très importante. Alors qu'ailleurs, ça va, ces groupes, l'importance des groupes anarchistes va se diluer.
Et peut-être justement, ce qui est intéressant dans la trajectoire espagnole et la trajectoire de la CNT, c'est une double différence avec le cas français. Donc la première différence, c'est la Première Guerre mondiale. Et la deuxième différence, c'est l'impact que va avoir disons, le modèle bolchevique sur le syndicalisme. Puisqu'en France, au cours des années 20, et en fait dès 1914, alors dès 1914, il y a le ralliement de la CGT à l'Union Sacrée. Donc la CGT va se transformer en un syndicat réformiste, mené par la figure emblématique de Léon Jouot, qui va dominer la CGT jusqu'aux années 30. Et ensuite, cette CGT réformiste va se doubler d'une CGT au début qui est à la fois anarcho-syndicaliste et bolchevique, mais qui très rapidement, au cours des années 20, va devenir bolchevique par un processus d'exclusion des anarcho-syndicalistes qui vont se retrouver dans un petit syndicat, la CGT syndicaliste révolutionnaire, qui ne va pas avoir une importance numérique notamment très importante. Comment est-ce que finalement l'anarcho-syndicalisme espagnol va échapper à la fois aux affres de la Première Guerre mondiale, bon, qui en outre favorise le ralliement à l'Union sacrée, et qui en plus va massacrer quand même une bonne génération de révolutionnaires, et en même temps va échapper aux affres de la bolchevisation. Alors la Première Guerre mondiale, on comprend mieux puisque l'Espagne ne faisait pas partie de la Première Guerre mondiale, mais il faut quand même peut-être revenir un petit peu sur l'impact de la Première Guerre mondiale sur la CNT ou simplement sur, disons, le non-impact de la Première Guerre mondiale sur son développement, sur celle du capitalisme espagnol. Et puis aussi, rapidement, comment est-ce que la CNT va échapper au piège de la bolchevisation?
Il va y avoir un début de développement de l'économie espagnole de ce fait-là. L'Espagne va nourrir les belligérants en armement, munitions et en nourriture. Un petit développement industriel, même l'agriculture va devenir intensifiée pour produire ça. Mais dès que la guerre s'arrête, hein, c'est là que ça montre encore une fois qu'il n'y a pas de dynamisme capitaliste très fort en Espagne. Par exemple, les terres redeviennent improductives. On continue pas à mettre les terres en culture puisqu'il n'y a pas de finalité d'exportation. On se retrouve dans les conditions un peu avant. Sauf que la bourgeoisie, le patronat s'est bien enrichi. Mais on se retrouve dans une situation où, encore une fois, il n'y a pas de développement économique très dynamique en Espagne. Le capitalisme ne passe pas à ces stades de développement comme dans le reste de l'Europe.
Oui, on peut ajouter que en fait, la bourgeoisie espagnole tellement peut développer l'outil de production que finalement il n'y a pas vraiment de classe moyenne, il n'y a pas suffisamment de demande intérieure pour pouvoir prendre le relais au moment de la fin de la guerre. Et ça va jouer un rôle important aussi en ce qui concerne la conflictivité sociale, parce que pendant la période de la guerre, les salaires avaient augmenté. Il y avait un certain nombre de conquêtes ouvrières qui avaient été concédées par la bourgeoisie qui faisait beaucoup de fric. Et puis dès que la manne s'arrête, à ce moment-là, immédiatement, chacun revient sur ses positions. Et les ouvriers avaient continué à maintenir un niveau d'exigence qui ne correspondait plus du tout à ce que la bourgeoisie était prête à céder.
Une clé de lecture aussi pour comprendre le développement poursuivi de l'anarchisme en Espagne après la Première Guerre mondiale, c'est que contrairement à en France, où vous voyez voir, de par le fait que c'est un capitalisme industriel relativement développé, une croissance économique relativement importante qui va permettre quand même une légère hausse des salaires et une forme de compromis de classe, en fait, en Espagne, précisément du fait que cette économie d'exportation un peu artificielle qui était née de la Première Guerre mondiale va s'effondrer au lendemain de la Première Guerre mondiale, et ce qui fait que, entre guillemets, le gâteau se rétrécissant, la bourgeoisie espagnole n'est pas disposée à le partager. Elle ne peut pas faire de gains de productivité.
Et le capital étranger, hein, n'oublions pas qu'une grande partie de l'industrie, c'est les étrangers, américains, anglais, qui tiennent les usines. Hein.
Et qui ne sont pas disposés au compromis social.
Voilà. Et là, ils reviennent aux positions habituelles, rien lâcher, rien céder sur rien. Donc là, c'est une période de 1917-1919, c'est un renouveau de la guerre sociale intensive qui recommence. Le patronat là, va systématiser le lockout. Là, ça va être la riposte à la grève, aux grèves systématiques des ouvriers. Et la violence policière va reprendre, encore une fois, redoubler comme d'habitude. Et là, on voit aussi en face évoluer la combativité et l'autodéfense ouvrière. Donc les ouvriers, de plus en plus, sont armés et vont systématiquement descendre les jaunes, tous les jaunes qui acceptent de travailler pendant les grèves. Et y compris des patrons, y compris des représentants, des intermédiaires du patronat. Donc là, c'est de nouveau une guerre ouverte dès 1917, en gros. Ça commence à ce moment-là. Et au point que le patronat est obligé d'encaserner les jaunes, qu'ils emploient de manière quasiment permanente. Ils les mettent dans des casernes protégées par la garde civile pour pouvoir les conduire du lieu de travail à leur lieu de sommeil avec moins de pertes, c'est pour dire où ça en est, quoi. L'exaspération est à son comble des deux côtés. On peut lire dans la Soli du 1er mai 1917 « Nous sommes fatigués de cette situation. » Et s'il faut chasser les entrepreneurs comme des chiens enragés, nous le ferons. La peau d'un bourgeois ne vaut pas plus que la nôtre. Donc c'est une violence ouvrière assumée, en disant, on nous a, comme j'avais cité dans le volume 1, une phrase d'un propos d'un internationaliste de la FRE qui disait, on nous oblige, on nous contraint à l'autodéfense violente, c'est pour nous un grand malheur, mais on n'a pas le choix. C'est des gens qui regrettent de devoir recourir, d'être armés en permanence, de devoir tuer d'autres ouvriers, les jaunes, et de devoir être tout le temps en alerte pour sauver sa peau, quoi. Donc ils disent, bien, là, eh bien, puisque c'est ça, on va aussi devoir s'armer et agir en conséquence.
Il y a une réponse patronale avec les pistolets roses.
Pas tout de suite, on y arrive. Et entre-temps, toujours en 17, il y a des groupes d'action, puisque de toute façon, l'action syndicale, la plupart du temps, se fait dans la clandestinité. Hein, c'est rare, c'est très rare. Toute l'histoire de la CNT, c'est quasiment deux tiers dans la clandestinité, un tiers à visage découvert dans la rue, quoi, hein, c'est toujours comme ça. Donc il y a toujours un appoint de gens, à la fois qui sont dans le syndicat, la CNT, ou qui sont dans les groupes anarchistes, en dehors, mais toujours en liaison très serrée, un appoint des groupes d'action qui défendent les gens pendant les grèves ou dans les luttes dans les rues, la lutte sociale, dans tous ces aspects. Donc, il y a le premier groupe qui apparaît de ce genre-là, d'un groupe d'action qui se dédie à l'autodéfense ouvrière. Il s'appelle Los Sin Nombres, les sans noms. Et ils commencent à mener des attaques contre le patronat du textile, puisque c'était à ce niveau-là que le conflit était souvent le plus marqué. Donc c'est des hommes d'action, des jeunes de groupe et des militants syndicales qui estiment qu'il faut passer par là. Donc en gros, on est dans une guerre sociale ouverte quasiment permanente, hein, toutes ces années-là, jusqu'en 31, et encore en 31, ça va encore se produire aussi, mais d'une autre manière, à 31 étant la date de la Deuxième République. Déjà, à l'intérieur du même mouvement, de la CNT, il y a un autre courant qui estime que non, faut pas trop se lancer là-dedans, qu'il faut privilégier la négociation, une alliance avec l'URT, le syndicat Union Générale des Travailleurs, le syndicat socialiste, réformiste, pour faire contrepoids aux exigences patronales. Donc il y a déjà les deux options qui se posent. La grosse manifestation de puissance de la CNT, c'est 1919. De février à avril-mai 1919, il y a la grande grève dite de la Canadienne, une entreprise d'électricité anglo-canadienne qui va, à la suite d'un renvoi d'ouvriers, une grève va se déclencher, mais une grève énorme, et qui va durer, donc qui va tenir en échec le patronat pendant des mois et des mois, qui va pratiquer le lockout, etc. À tel point que, c'est aussi l'occasion de réclamer les 8 heures de travail, et toutes ces thématiques revendicatives du moment, de l'époque. Et là, à tel point que l'État va intervenir, comme la situation est complètement bloquée, donc avec des coupures d'électricité, tout Barcelone est dans le noir, enfin des sabotages, l'armée qui intervient pour rétablir l'électricité, c'est vraiment une histoire des ouvriers déportés, des ouvriers arrêtés, enfin, une partie de la militance est en prison, enfin, ça prend vraiment des proportions énormes. Donc l'État intervient pour débloquer la situation en obligeant le patronat à accepter les 8 heures, par exemple. Et la nouvelle fédération patronale qui s'est créée, la fédération nationale patronale qui s'est créée, doit avaler ce couleuvre-là, mais elle va le faire payer très cher au mouvement ouvrier. Ça va relancer la bagarre. Et on va assister à ce qu'on appelle la guerre civile, ce qu'un historien libertaire, je crois bien, a appelé la guerre civile à l'essai. Ça va être pendant des années et des années une sorte de guerre sociale à coups de paramilitaires, de miliciens. La police, l'État et le patronat vont engager des tueurs, comme ça se faisait aussi aux États-Unis, avec l'agence Pinkerton, etc., pour liquider tous les militants ouvriers, quelques tendances qu'ils soient, même les plus conciliants, mais pour liquider l'impact aussi de ces gens qui provoquaient un énorme enthousiasme, qui payaient leur personne. Tous ces gens-là vont se faire liquider. Dont les groupes anarchistes dont j'ai parlé, qui étaient apparus en 1917, vont dire, vous voyez, il n'y a pas le choix, il faut s'organiser en rapport avec ça. Donc j'ai dédié tout un chapitre à tous ces jeunes gens, souvent c'est des jeunes garçons et quelques femmes, qui vont s'engager dans cette autodéfense ouvrière dans Barcelone et payer aussi très cher tous ces engagements. Là, je dédie un chapitre entier. Parce qu'on connaît beaucoup, après le groupe des Solidarios qui va se créer en 1923 avec García Oliver, Ascaso, Durruti, qui vont accomplir cette même tâche, mais vraiment en liaison encore plus étroite avec la CNT. Mais toute cette petite histoire de ces jeunes gens de 1917 à 1923, elle est très peu connue et j'ai voulu retrouver un petit peu. Donc j'ai fait dédié une annexe à leur biographie, à la biographie de ce que j'ai trouvé pour certains. Donc cette période qui va jusqu'en 1923, c'est vraiment une guerre sociale dans tous ses aspects. Et en même temps, se tient en décembre 1919, donc, avec la victoire quand même, la victoire, cette grève de la canadienne, c'est la CNT va passer de quelques milliers, de dizaines de milliers d'adhérents à 800 000. Ça va être un mouvement, c'est un des mouvements, l'ORT était aussi puissante, hein, c'est un syndicat réformiste. Mais là, sur le plan révolutionnaire, c'était vraiment le plus gros mouvement qu'il y a eu à ce moment-là en Espagne, et de loin, quoi. Donc, elle tient son congrès en décembre 1919. Et c'est là qu'elle va traiter de la question de ce qui se passe en Russie. Beaucoup, beaucoup de temps va être dédié à ce qui se passe en Russie. Ça va même prendre une bonne partie des thèmes et du temps de discussion. Mais avant, on a décidé de la mise en place du syndicat unique, ce qu'on appelle la structure du syndicat unique, un syndicat par ville ou par branche. Et surtout, mettre en place une liaison, par exemple, au niveau de Barcelone, entre les quartiers excentrés et le centre, pour qu'il n'y ait pas un endroit de tout ce milieu militant qui échappe à la coordination, à ce qui se décide, à ce qui se fait, y compris donc dans les quartiers ouvriers les plus reculés. Donc ça c'est très important, c'est vraiment la structure, la force de la CNT, c'est ça. Hein, c'est des gens dans les quartiers qui sont reliés à tout le reste du mouvement et qui vont et qui viennent et qui participent. Donc ça veut dire aussi que ce n'est pas que dans les lieux de travail qu'une semaine, c'est aussi dans les quartiers, dans les grèves de loyers. C'est là que la CNT dit, à partir de janvier 1920, grève générale des loyers dans toute l'Espagne, jusqu'à ce qu'on rétablisse, les propriétaires rétablissent les prix d'avant 14. C'est là aussi que se crée une des structures de base aussi de la CNT, c'est les comités des prisonniers. Comme la plupart du temps, la moitié des militants sont en prison plutôt que dehors, il y a une structure de comité de prisonniers qui va être extrêmement importante pour soutenir les familles, les prisonniers à l'intérieur. Les familles reçoivent les salaires du mec qui est en prison. Là, c'est la force aussi des groupes de quartiers, souvent qui sont aussi structurés dans les quartiers, qui vont participer au mouvement de cette façon-là. Tout ça se combine, se met en symbiose et va devenir représenter, comme on dit à l'époque, les yeux et les oreilles du syndicat dans chaque quartier. On prend aussi en compte les insurrections qui avaient lieu dans les années 20, début du 20e siècle et qui vont continuer dans les années 20 et 30. C'est ce qu'on appelle les luttes communautaires. Donc, des femmes qui décident que le ravitaillement, les prix sont trop chers, elles font des manifestations de rue, vont piller des magasins, exiger la nourriture, aller dans les docks du port, piller aussi la nourriture qu'on envoie à l'exportation alors qu'elle devrait rester dans le pays. Toujours pareil, la politique de l'État espagnol est un peu incohérente à ce niveau-là. À ce moment-là, donc, la CNT devient un mouvement aussi, important et fort, avec une base populaire très forte, comme la FORA Argentine, la Fédération ouvrière de la région argentine. Ils tenaient beaucoup au terme de région, parce que même le terme de nation, internationalisme, leur déplaisait. Ils préféraient dire « nous sommes la région argentine ». Et ensuite, on commence donc à discuter de l'adhésion à la troisième internationale bolchevique, hein, qui est proposée par certains, comme Andrés Nin, qui font partie de la CNT à ce moment-là, Maurín, les futurs dirigeants du PUM. Ce sont des gens qui intercèdent, qui vont de plus en plus souvent à Moscou et qui estiment qu'il faut soutenir la révolution bolchevique et qui proposent à la CNT d'adhérer à la troisième internationale. Donc là, ça avait l'objet d'un débat. Très important. Il y en a qui considèrent qu'il faut adhérer de manière provisoire et conditionnelle. Et on va envoyer une commission à Moscou pour voir de plus près ce qui s'y passe. Et d'autres, ils commencent des anarchistes, des purs anarchistes, qui commencent à se laisser griser par ce phénomène de la révolution russe, parce que quand même, effectivement, c'est un événement universel, d'importance. En fait, cette idée de révolution dont on a tellement parlé, voilà, là, elle se concrétise, donc tout le monde est fortement troublé, enthousiaste. Il faut au moins aller voir. Certains sont déjà un petit peu inquiets parce qu'effectivement, toutes les thématiques de la dictature du prolétariat sont mises en avant et ça ne plaît pas à certains. Et d'autres, au contraire, des purs anarchistes disent « Ah ben oui, faut voir si c'est provisoire. Enfin, » ils commencent à avoir des positions un peu trop compréhensives par rapport à ça. Cela dit, pour anticiper, quand les mandatés reviennent de Moscou, dont Pestagne à 10 ans et tout, sortons de là, on a ça. Ces gens-là n'ont rien à faire avec les idées libertaires. Quoi. C'est au contraire, ils sont en train d'exercer une dictature sur le prolétariat, non pas du prolétariat, mais sur le prolétariat russe. Donc il faut absolument sortir de cette internationale-là, ce qui va être fait en 1921. Et la CNT, à mon avis, va adhérer à la prochaine AIT qui va se créer en 1923 à Berlin.
Et notamment, il me semble que dans cette délégation espagnole, il y avait notamment Gaston Leval, qui raconte effectivement que lui s'est entretenu avec des anarchistes là-bas qui étaient emprisonnés par le pouvoir bolchevique et que du coup...
Il avait vu ce qui se passait.
Alors que d'autres délégués n'y ont vu que du feu, même notamment des anarcho-syndicalistes français.
Ouais, et puis il y avait aussi Magelman et Alexander Bergman qui étaient là-bas, et puis aussi qui voyaient le désastre que c'était. Ils sont restés un moment pour essayer d'intercéder aussi, pour libérer des anarchistes russes, et après ils sont partis, quoi. Oui, là, le mouvement anarchiste international comprend que... Bon, pas tous, hein, y a certains qui vont continuer à soutenir les bolcheviques. Mais bon, en tout cas, en Espagne, l'affaire, en gros, en 21-23, l'affaire est réglée. Et c'est dans ce cadre-là, de ces discussions-là, qu'on pose l'orientation idéologique de la CNT, avec la pression des groupes anarchistes qui insistaient depuis 1918 pour qu'on mette ce thème-là en discussion. Et c'est là qu'il est décidé, je cite, « D'après les fondements des postulats de la Première Internationale des Travailleurs, on déclare que la finalité recherchée par la CNT d'Espagne est le communisme anarchique. » Donc après ce congrès, on peut dire qu'officiellement la CNT devient anarcho-syndicaliste sans que le terme soit encore officialisé. Hein. Et dans l'anarcho-syndicalisme, il est compris que le syndicat n'est qu'un un pur moyen en vue de la réalisation de l'anarchie. C'est ce qui était entendu à l'époque sous ce terme-là. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, loin d'homogénéiser les tendances, cette décision-là au deuxième congrès de la CNT en pleine au fait de sa puissance va entraîner des polémiques, des séries de polémiques, parce qu'il y en a qui vont résister. Les plus purs syndicalistes vont dire que non, il n'y a rien à faire. L'anarchisme doit rester un bel idéal, une éthique, mais quelque chose de séparé de la lutte syndicale. Ça va, la polémique va s'engager en permanence sur ces questions-là. Et entre le fait que le terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme blanc, le terrorisme patronal, aidé par l'État, va décimer une partie importante des hommes les plus connus, des hommes, des stakados, comme on dit, les militants les plus en vue, dont Salvador Seguí, qui va se faire descendre en 1923. Tout, la CNT ne peut plus mener son activité à visage découvert, comme d'habitude, c'est-à-dire faire des affiliations, relever les cotisations, faire tenir les caisses de grève par les cotisations des militants. Tout ça peut difficilement se faire, puisque les militants sont tirés comme des lapins entre leur lieu de travail et leur trajet. Certains même sont enlevés chez eux et liquidés dans la nuit, quelque part, dans un coin paumé. C'est là que les groupes d'action disent aussi, non seulement on peut, nous aussi, suivre et liquider les tueurs de la patronale, comme on disait à l'époque, mais on peut aussi aller relever les cotisations avec notre flingue, évidemment. On va y aller armé. Donc on va pouvoir, la CNT, une partie de la CNT accepte que ces jeunes gens, ces groupes d'action, fassent ce travail-là et leur dit, puisque ces gens-là, en plus, étaient dans la complète clandestinité, comme ils n'avaient pas de revenus, ils se payaient en partie sur les cotisations qu'ils arrivaient à relever.
Et cette situation va être durcie avec le coup d'État militaire de Primo de Rivera ?
Paradoxalement, le plus dur, c'est là. C'est 1919-1923. Le coup d'État, c'est en 1923. Au dire des gens de l'époque, hein, le plus dur, c'est ces années-là, les 1919-1923. C'est là que le conflit armé de part et d'autre bat son plein. Et que ben là, c'est une désaffiliation massive. Hein. On va passer de 800 000 adhérents à 300 000 en 23. Quoi. C'est plein de gens ont peur. Quoi. Dans les usines, il y a des agents provocateurs qui vont engager des grèves dans l'usine pour voir quels sont les ouvriers qui répondent. Et hop, on les arrête. On les arrête, on dit, ben voilà, ils se sont autodésignés. Le patronat dit on ne veut plus de ces militants qui organisent les grèves dans nos boîtes, c'est fini, on n'en veut plus.
Par contre, avec le coup d'État de Primo de Rivera en 1923, la CNT va devenir clandestine jusqu'en 1930. Mais les anarchistes eux-mêmes disent que effectivement leur activité à ce moment-là était très restreinte, les effectifs ont confondu, parce que là ils ne pouvaient même plus se compter, il n'y avait plus de congrès, plus de réunions officielles. Mais en fait, ils parlaient de dictamol, quoi. C'était pour dire que cette dictature de Primo de Rivera finalement n'était pas aussi répressive que ce qui avait précédé. Et en fait, il y avait une volonté de la part de Primo de Rivera de mettre en œuvre une certaine forme de modernisation qui n'a pas du tout abouti. Mais en fait, disons, il y avait une volonté, en tout cas, de trouver des modes de médiation. Et c'est à cette époque-là que des socialistes comme Largo Caballero ont accepté de participer à des commissions paritaires, des comités paritaires qui faisaient la médiation entre les ouvriers et les travailleurs. La CNT a refusé d'y participer, bien que certains membres, à certains moments, aient quand même plus ou moins suivi et entretenu des contacts, mais non officiels, pour savoir s'il y avait quand même quelque chose à faire ou pas dans ce cadre-là. Ce qui laissera aussi beaucoup de problèmes et de questions non résolues qui vont alimenter les luttes de tendance dans les années à venir.
Donc les syndicalistes révolutionnaires qui vont déjà assez vite qualifiés de réformistes, hein, dans les grandes polémiques dont Angel Pestaña et Juan Peiro, eux proposaient justement ce que vient de dire Vincent, de négocier le retour à la légalité. Donc effectivement, comme ils sont la plupart du temps dans la clandestinité, ils estiment qu'on ne peut pas mener un travail syndicaliste normal et que ça rime à rien de continuer comme ça. Et donc il faut accepter de négocier avec l'État ou le patronat et recourir à ces commissions mixtes syndicat-patronat s'il le faut. Et là, ça entraîne la colère de tous les anarchistes plus radicaux et des activistes qui estiment que non, il n'y a pas à tomber là-dedans, quoi. Donc c'est là qu'on trouve le terme de révisionnisme qui est avancé par rapport aux idées anarchistes, qui est avancé y compris par Juan Peiro et d'autres eux-mêmes, quoi, ou Pestaña. Par exemple, dans les années 25, on trouve dans beaucoup de textes, d'articles publiés à ce moment-là, une revisitation du terme même de communisme libertaire. Il y a Juan Peiro qui écrit par exemple: « Si on analyse le contenu de la déclaration de principe de 1919, nous voyons que le communisme libertaire ne correspond qu'à l'aspect économique de l'anarchisme. Il n'y a pas de raison suffisante pour prétendre que la CNT est anarchiste. Elle est révolutionnaire et rien de plus. » Et il estima qu'au-delà des motivations strictement économiques, il fallait donner à la grève un contenu moral, je le cite, « une plus grande transcendance sociale en conférant au travail une plus grande dignité ». Alors que chez les anarcho-communistes, dans le volume 1 dont j'avais parlé, eux, ils rattachaient souvent le terme de dignité au refus du salariat. Et là, Peiro propose un déplacement de ce concept de dignité sur l'activité laborieuse en elle-même, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc là, je le cite encore. « Il faut mettre en avant la dignité de l'activité professionnelle et la responsabilité ouvrière de manière permanente et inflexible, avec un maximum de publicité. Et si à partir de là se produisent des lock-outs et incidents que les grèves engendrent inévitablement, au moins, ces dernières donneront le sentiment qu'au-delà de l'intérêt de classe, c'est le bien général et public qui est poursuivi, et elles recevront l'appui et la sympathie de l'opinion. » Donc voilà, c'est une autre stratégie que le radicalisme anarchiste qui est proposé, hein, c'est de rallier à soi une opinion au-delà du critère anarchiste.
Un certain nombre d'anarchistes dans des groupes vont avoir le souci de maintenir une orientation clairement anarchiste à l'intérieur de la CNT et ils vont être à l'origine de la création, donc en 1927, donc dans la période clandestine, de la FAI, hein, Fédération anarchiste ibérique, dont la fonction est de maintenir un lien extrêmement fort avec la CNT et pour empêcher justement une dérive vers le possibilisme ou le réformisme tel qu'il pouvait exister dans l'UGT.
Et ça, en ça, il s'inspirait de ce qui se passait dans la FORA argentine, qui avait officialisé ce terme-là, la trabazón, en espagnol, c'est-à-dire ce qui lie, ce qui relie très intimement le syndicat et les groupes anarchistes. Et avec ça, la FORA estimait qu'elle avait réussi à contenir la pénétration des idées bolcheviques dans le mouvement libertaire. Donc ça s'est importé en Espagne, et ce sont les groupes anarchistes qui ont proposé la trabazón, ce qu'ils appelaient la représentation des groupes anarchistes dans les organes confédéraux. Et ça va se passer à travers les groupes de prisonniers, de soutien aux prisonniers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, ça va être, on voit que c'est plus qu'un soutien aux prisonniers, c'est toute une symbiose de combat, de divers niveaux de lutte et de soutien et de solidarité qui faisait force dans la force de ce mouvement. Et eux, c'est là qu'ils vont, les comités de prisonniers et les comités de défense vont être les lieux d'imbrication de la CNT et de cette faille. Mais auparavant, pour revenir juste à ce que je disais en liaison avec Peiro, cette volonté d'investir l'activité laborieuse de valeurs morales, hein, tout ça se combine avec une sorte d'ouvriérisme et d'économicisme qui se met en place, qui va caractériser le courant syndicaliste révolutionnaire. Oh, c'est le primat du secteur de la production qui commence à imprimer... Je vais citer un auteur partisan de cet ouvriérisme, c'est El Octavio Quintanilla, qui disait, toujours dans les années 1925-1930, « Au cours de l'histoire, le mouvement ouvrier suit comme l'ombre sur le corps les changements de mode de production. L'économie apparaît ainsi comme déterminant de manière inflexible les caractéristiques de l'organisation des prolétaires. » Voilà, ça c'est vraiment un cap important qui se passe au sein de la CNT, hein. Autant avant l'économie, dans les milieux anarchistes, c'était considéré comme l'idéologie du capitalisme et les ouvriers n'avaient rien à gagner en se soumettant à ces lois. Autant là, dans le mouvement ouvrier, y compris chez les anarcho-syndicalistes déclarés, ils estiment qu'au contraire, maintenant, il faut comprendre les lois de l'économie et les suivre. Et donc, comme il dit même, il faut que le mouvement ouvrier suive comme l'ombre sur le corps les changements de mode de production. Voilà, c'est très important comme passage.
Et est-ce que c'est lié, comme ailleurs, à une modernisation du capitalisme? Parce que, évidemment, les transformations du capitalisme, notamment avec l'arrivée de la grande industrie, ça peut effectivement favoriser des tendances davantage industrialistes, réformistes, économicistes. Est-ce que tu penses qu'il y a une espèce de cause matérielle ou que c'est principalement lié au débat d'idées
Oui, c'est ce qui se passe ailleurs en France, notamment. Comme en Espagne, ils suivent toujours de très près tout ce qui se passe en France. Il y a beaucoup de théoriciens du mouvement ouvrier à ce moment-là qui théorisent ça, hein, ces principes-là. Mais la France étant une étape du capitalisme ultérieure par rapport à ce qui se passe encore en Espagne. Par exemple, en Espagne, il y a encore l'industrie est toujours très peu mécanisée, très peu développée. Il n'y a pas de production en série. On est encore au stade entre artisanat et industriel du capitalisme. Donc toujours pareil, avec des ouvriers qui ont encore une grande maîtrise de leur savoir-faire, de leur conscience de leur qualification, et qui tiennent la dragée haute au patronat en estimant qu'on ne peut pas contrôler leur façon de vivre et leur façon de travailler. Donc on est entre les deux, parce qu'ils suivent de très près, tous les militants ouvriers espagnols suivent de très près ce qui se passe en France et reprennent à leur compte cette évolution. Mais une grande partie du mouvement libertaire, elle, n'est pas réceptive du tout. Et là, on va avoir une riposte anarchiste plus théorique qui va venir, encore une fois, d'Argentine, mais parce que c'est Abad de Santillán, dont on a peut-être déjà parlé dans la première émission, qui est un militant anarchiste, partisan du communisme libertaire, qui, en 1925, se trouve en Argentine, mais va bientôt revenir en Espagne, mais il publie énormément d'articles, il les envoie en Espagne, il est très lu en Espagne. Et lui, il va rappeler le fond, en gros, le vieux fond des anarcho-communistes dont j'avais parlé avant, et il va insister pour combattre cette évolution vers le syndicalisme de type réformiste, défendu par Peiro.
Nous ne croyons pas que les organisations ouvrières doivent suivre le processus de développement industriel ni copier les formes extérieures du capitalisme en cherchant dans la structure économique actuelle des éléments constitutifs de la future organisation des peuples. L'important est de maintenir latent l'esprit d'indépendance des prolétaires et opposer une force consciente au pouvoir asservisseur du capitalisme en minant son formidable organisme économique pour le rendre inutilisable et sans espérer se servir de lui pendant ou après la Révolution. De la même manière que nous ne devons pas viser la conquête de l'État, nous ne devons pas souhaiter celle du système économique du capitalisme, mais plutôt son abolition dans la vie sociale. Si nous devions planifier l'organisation libertaire future, nous donnerions toujours l'avantage à la commune plutôt qu'à la base industrielle. L'industrialisme ouvrier est une émanation du matérialisme historique appliqué au terrain de la lutte des classes. Et ce camouflage de la révolution doit être détruit par les anarchistes.
Je trouve que c'est intéressant, justement, parce que la citation évoque le concept de matérialisme historique. Est-ce que finalement, dans ce syndicalisme révolutionnaire révisionniste, comme il y a eu un marxisme révisionniste, est-ce qu'il n'y a pas un peu une adhésion, finalement, à un peu la téléologie progressiste marxiste, c'est-à-dire l'idée que inéluctablement les modes de production se succèdent les uns après les autres, les stades du capitalisme également, et que du coup, en regardant vers la France notamment, ils voient voilà, déjà la grande industrie et pensent qu'il faut s'y adapter. Ce qui explique aussi qu'on va retrouver dans cette tendance, comme dans le syndicalisme français, comme revendication, disons, la plus radicale, celle de contrôle ouvrier. C'est-à-dire que finalement, dans la grande industrie, voilà, il faut obéir aux lois du marché, etc., etc. Ce que éventuellement on peut proposer, c'est une forme de co-gestion du capitalisme avec le contrôle ouvrier, où les ouvriers, notamment, peuvent voir les bilans financiers, participent finalement de l'entreprise et non pas se révoltent contre la logique de l'entreprise et celle du travail salarié.
Cette question-là peut-être anticipe un petit peu sur des développements qui vont venir un petit peu plus tard. Il y a bien effectivement quelques personnes, justement comme Peyrot, qui commencent à poser un peu des préoccupations de ce genre-là. En gros, la nécessité de moderniser l'appareil de production et d'une certaine façon d'affirmer le travail prolétarien à l'appui de cette modernisation, donc de jouer le jeu de la modernisation du capitalisme d'une certaine façon. Il y a bien quelques voix qui s'expriment dans ce sens-là, mais elles sont très très isolées. Quand on parlait de Diogo Abad de Santillane, la citation qu'on avait donnée tout à l'heure, elle indique bien justement que quelqu'un comme Santillane, qui changera d'avis plus tard, dans quelques années, mais à cette époque-là, exprime encore une position très critique. Et en gros, en considérant que le mode de production capitaliste doit être détruit et qu'on ne doit, doit pas le reprendre sous aucune forme. Et justement, on y viendra un peu plus tard. Quelques années plus tard, il développera justement l'idée que finalement, eh ben, il faut se rendre à la raison, que l'outil de production doit devenir efficace, qu'il faut jouer le jeu de l'industrie, et qu'à ce moment-là, il y a une participation de l'effort et du travail prolétarien qui doit être assumé dans le sens d'une certaine forme de reprise en main du capitalisme. Que ce soit par les capitalistes officiels et la bourgeoisie, ou finalement, si la bourgeoisie fait défaut, eh ben, éventuellement par la classe du travail.
Donc, justement, pour revenir à Santillane, une dernière citation de lui, parce que c'est en 1923, dans La Protesta, un journal argentin. C'est sous sa plume qu'on voit apparaître pour la première fois le terme anarcho-syndicalisme. Parce que jusqu'à présent, la chose était en gestation, discutée, disputée, mais elle n'apparaît pas, le concept n'apparaissait pas. Et même en France, ça n'apparaîtra qu'en 1931. J'ai fait aussi une petite annexe là-dessus pour montrer que ce terme-là est même en soi problématique. Il est symptomatique des luttes entre le syndicalisme révolutionnaire et les anarchistes qui veulent poser la présence de l'anarchie, des idées anarchistes et de la finalité anarchiste de manière constante dans le mouvement ouvrier et les luttes de tendance à travers ça. Donc, en 1923, même ce terme-là d'anarcho-syndicalisme, ce terme-là, il le cite pour le discuter. Il dit « L'anarcho-syndicalisme légitime l'existence d'une période post-révolutionnaire qui rendra nécessaire l'intervention de pouvoirs régulateurs des fonctions économiques fondamentales. Qu'on l'appelle dictature de prolétariat ou dictature des syndicats ou du travail, c'est équivalent. » Donc pour lui, déjà, ce terme-là, il ne veut même pas le prendre à son compte. C'est déjà antinomique. Il dit « Anarchisme et syndicalisme, c'est antinomique. » Pour lui, pour tous les communistes anarchistes de cette époque-là, le syndicat n'est qu'un moment de la lutte contre le patronat. Il ne faut en aucune manière lui donner plus d'attributions. Et il faudra surtout s'en débarrasser une fois que le capitalisme sera abattu. C'est dans les polémiques, les débats de cette époque-là, c'est ça qui revient de manière récurrente. Santillane, c'est très important, c'est un mec qui a beaucoup écrit en Argentine et en Espagne, parce qu'il va revenir en Espagne en 1933, il va continuer sa production. C'est vraiment un mec incontournable et qui m'a permis, moi en tout cas, de suivre un peu le fil des discussions et des polémiques de manière simplifiée, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels anarchistes espagnols à ce moment-là. Et avec lui, je peux traverser toute cette période-là des années 20 et 30 de manière plus facile. Surtout qu'il écrit assez bien, et on sait qu'il est beaucoup lu à l'époque. Donc pour en venir à la fin de la période de la dictature de Primo de Rivera, où toutes ces discussions ont eu cours, enfin, je saute plusieurs étapes parce que ce serait un peu trop long. La CNT, après la chute du dictateur, la CNT ressurgit de chaque fois, après une période où on a l'impression qu'elle est anéantie, hop, elle ressort, des grèves de partout, des affiliations qui remontent, et elle reprend sa position hégémonique comme mouvement révolutionnaire. Et à un moment donné, en 1932, on a établi que son assise populaire représentait 20% de la population active, ce qui est quand même extrêmement important. Donc avec des syndicats uniques, cette forme qui est née en 1919, très imbriquée dans les quartiers, et commence à s'occuper non seulement des gens qui travaillent, mais des chômeurs, des migrants qui viennent des régions du Sud. Tout de suite, il les branche avec des athénéos, c'est des écoles rationalistes qui sont animées dans les quartiers par les jeunes des groupes de jeunes libertaires, qui alphabétisent le plus vite possible les nouveaux arrivants, qui leur trouvent du travail. C'est un mouvement puissant qui va effectivement s'occuper de tous les aspects de la vie des travailleurs et de leur famille.
Oui, c'est un petit peu comme s'il y avait une espèce de contre-société anarchiste, bon, qu'on voit particulièrement dans les quartiers, les barrios de Barcelone. Et aussi, ça permet de montrer que voilà, la CNT est résumée au concept d'anarcho-syndicalisme, mais en réalité, le mouvement anarchiste en Espagne ne se réduit pas à des syndiqués, mais il faut y ajouter leur entourage familial, et également, comme tu l'as dit, des chômeurs, des nouveaux arrivants.
Les vendeurs ambulants, enfin, toutes les activités, des activités plus ou moins marginalisées. Les marginaux, vont, effectivement, les gens même qui vivent dans une certaine marginalité vont quand même être toujours en liaison avec la CNT, ne serait-ce que par ces hommes d'action qui sont toujours bien installés dans les quartiers et qui expliquent, qui font le relais auprès des gens. Comme c'est des gens qui ont donné, payé leur personne, ils sont très respectés, très écoutés, et on leur fait confiance. Une grande confiance, c'est ça qui est important. Hein. Dans la CNT, sa force, c'est les militants de base qui ont imprimé, qui inspirent une très grande confiance.
Et finalement, une des forces de la CNT, c'est d'avoir d'une certaine manière une double nature, une nature syndicale comme organisation syndicale de type revendicatif, centrée principalement quand même sur les lieux de travail, etc. Et quelque chose de beaucoup plus large. Et cette double nature de la CNT, elle joue quand même un rôle essentiel pour comprendre la suite.
Avec cette finalité communiste libertaire qui est toujours posée, même si elle n'est pas très étayée, mais elle est toujours là. Même discutée, mais elle est toujours là. Et à côté de là, tu as la montée, ce que j'avais dit aussi, ce qui est symptomatique de l'anarchisme en Espagne, c'est l'importance des groupes anarchistes qui ne sont pas étiolés comme en France. Qui ont continué. C'est très peu des anarchistes individualistes comme les Français. Hein. C'est plus ce qu'ils appellent eux-mêmes à l'époque des individualistes sociaux. C'est des gens toujours en rapport avec les luttes sociales, qui sont toujours impliqués dans des activités. Et entre autres, là, il va y avoir des courants naturistes, végétariens, des groupes de femmes qui vont apparaître. Aussi en écho avec ce qui se passe en Argentine, où il y a le premier journal de femmes anarchistes, qui est La Voz de la Mujer, qui est né dans les années 20, fin des années 20. Dans les années 30, c'est une période vraiment de multiplication des activités et des propositions de révision, de contestation des valeurs bourgeoises, dans les libertés sexuelles, les discussions sur l'éducation sexuelle, le pacifisme, l'espéranto, l'antimilitarisme, non, toujours, une presse toujours prolifique depuis les premiers anarcho-communistes dont on a parlé de Barcelone des années 1880. Ça n'a jamais arrêté, même s'il y avait un mec dehors et les trois et 10 autres en prison, mais il y a le mec du groupe qui continue à publier une feuille. C'était pour eux, c'était vital quoi, de toujours publier une petite feuille et la diffuser dans le quartier.
Oui, c'est là où on voit l'ampleur de l'assise
populaire de ce mouvement. Quoi. Et c'est là ce qu'on appelle, il y a un livre fameux de Chris Elam, un historien anglais, c'est La Lucha por Barcelona. C'est vraiment, comme il dit lui-même, les prolétaires de Barcelone qui disent, en gros, ils disent à la bourgeoisie, cette ville est autant à nous qu'à vous, il n'y a pas de raison qu'on vous la laisse. Donc c'est une lutte pour la ville, depuis les quartiers, pour rester dans le quartier, continuer à avoir le mode de vie qu'eux ont choisi, même s'ils sont contraires au salariat. Et ils disent, comme ils disent, nous, dans la journée, on est dans l'usine, mais le reste du temps, on mène notre vie à nous.
Une espèce de droit à la ville un peu radical, quoi.
De droit même de disposer de la ville, du quartier, de l'espace. Deux, trois bouquins fort intéressants dont je parle dans mon livre. Je traduis beaucoup d'extraits parce que c'est vraiment extrêmement précis et intéressant pour comprendre l'assise populaire de ce mouvement.
Oui, la notion de droit à la ville, ça fait référence à Henri Lefebvre. Et effectivement, c'est lui-même, quand il avait publié ce livre collectif, il avait fait référence au fait que ça avait été aussi tout un débat hein, dans les milieux ouvriers. Le fait de savoir s'il fallait considérer la ville comme un lieu de perdition, de destruction, de délitement, ou si ça pouvait éventuellement être vu comme un lieu d'émancipation qui permettait de construire des relations et des combats. Et là, finalement, c'est un petit peu l'orientation qui va être donnée effectivement par la CNT. C'est-à-dire considérer que la ville, en tout cas la ville de Barcelone, finalement est un lieu plutôt intéressant.
Donc on arrive en en avril 31, c'est la deuxième République espagnole qui se met en place. Et là, avec un grand espoir populaire, même chez les plus radicaux, même les plus anarchistes, ils disaient bon, il va au moins avoir une réforme agraire ou des choses qui vont bouger, quoi. Et là, donc il y a les socialistes et les républicains au pouvoir. Et assez vite, le mot d'ordre venant de l'État, c'est pas de grève, il faut consolider le régime d'abord. C'est signifié d'entrée de jeu. Et là, le processus justement de conflit social va démarrer dans les villes et les campagnes de manière très rapide, parce que là, ça passe pas du tout, quoi.
Et justement, on va parler de la période de la Deuxième République espagnole de 1931 à juillet 1936 dans une deuxième partie de cette émission.
Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passent le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnon, dont la jeunesse est à la douane, et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés des menuisiers, et sans patron tout refonctionne, on sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, les ouvriers, les ouvrières détruisent une prison d'abord. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, à Madame, c'est l'anarchie, la liberté dans l'espérance. Ils ont osé la vivre au sud. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos, como ayer la Confederación. Dame tu mano, compañera, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la Confederación.
Et donc nous sommes toujours sur une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une histoire de l'anarcho-syndicalisme en Espagne de 1910 à 1936, et des débats autour du communisme libertaire, et nous sommes toujours avec Vincent et Myrtille, des Jiménologues, pour en parler, pour une émission autour de leur livre paru en 2018 aux éditions Divergence, qui s'appelle donc l'anarcho-syndicalisme, travaillé par ses prétentions anticapitalistes. Et donc là, dans une première partie de l'émission, on a parlé de ce qui se passe avant la Deuxième République espagnole, et là, on revient en 1931.
En 1931, donc la République se met en place en avril, et en juin se tient le troisième congrès de la CNT. aux 511 syndicats représentés par 535 000 affiliés. Donc la CNT a repris des forces. Et à l'intérieur, on va voir au cours des débats que les réformistes, ce qu'on va appeler les réformistes, commencent à prendre un certain ascendant, puisqu'ils vont soutenir que le syndicat, loin de disparaître après l'abolition du capitalisme, deviendra l'organe essentiel de la future société anarchiste. Donc je cite une formulation de cette thèse. « Le syndicat d'industrie est la meilleure forme d'organisation possible, non seulement comme instrument de résistance face au capitalisme, mais aussi comme valeur pour supplanter ce dernier dans l'hégémonie et la direction de la société. » Donc il va y avoir des débats houleux autour de cette thèse-là. Et par exemple, Peyrot va défendre cette proposition. Elle va être exprimée aussi de cette manière-là, je cite, « À la concentration du capitalisme doit correspondre celle de la force du prolétariat. Le syndicalisme est industrialiste dans la mesure où il se voit obligé d'adapter ses comportements aux coordonnées technologiques et économiques du système auquel il veut succéder. » Donc voilà ce terme « industrialiste », c'est un terme de l'époque, hein, terme que va reprendre une partie du mouvement de la CNT. Donc il va y avoir des affrontements sur ce terme-là, et on va vous citer d'autres militants de la CNT qui ont une vision absolument contraire.
Plutôt que dans le sentiment industrialiste, c'est dans la solidarité et la conscience de classe des syndicats et organisations les plus immédiats que nous devons chercher l'efficacité. La lutte que les travailleurs ont engagée ne se limite ni ne se circonscrit à une amélioration immédiate ou progressive de type industrialiste. Elle est plutôt résolument révolutionnaire et négatrice de l'ordre bourgeois capitaliste, dont nous voulons la totale disparition. Nous ne pouvons nous baser sur la structure économique bourgeoise, ni nous adapter à elle, ni aller à sa remorque. En tant que révolutionnaires, nous devons subvertir ses valeurs. Alors c'est donc un autre auteur, José Alberola, qui exprime le même type de désaccord. Les partisans de la fédération d'industrie ont perdu la foi dans la finalité et ne font confiance qu'à l'engrenage de la machine. Et moi je dis que la machine ne crée pas la force. Au contraire, elle la consume. Et dans ce sens, nous devons créer une mentalité réfractaire à tout ce qui implique de mécaniser l'individu. Nous devons faire en sorte que toute organisation soit vivifiée par les ouvriers eux-mêmes. Visons la commune libre. Il s'agit de détruire l'organisation du capitalisme. Ayons un idéal qui est en définitive ce qui va tôt ou tard étouffer cet engrenage capitaliste.
Voilà, c'est ces termes-là, de manière bien tranchée, quand on voit que les deux courants apparaissent, les deux courants héritiers un peu des débats de la fin du XIXe siècle, la tendance communaliste qui va se dire elle-même ruraliste ou agrariste, selon les termes de l'époque, et la tendance syndicaliste-industrialiste qui veut reprendre l'appareil industriel du capitalisme pour en faire un meilleur usage. À ce moment-là, on voit aussi que dans les comptes rendus du Congrès, le terme d'abolition du salariat, qui était toujours présent dans toutes les communications, là, il a disparu. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Et le rôle des masses paysannes, surtout, là, est de plus en plus relégué au second plan. Ce qui était déjà visible depuis 1919, là, s'accentue encore plus. Là, il n'y a pas de syndicat purement paysan, comme il y avait avant, jusqu'en 1919. Il a disparu, il était absorbé par la CNT. Et beaucoup de militants dans les congrès protestent parce qu'ils disent « mais on ne s'occupe pas des masses paysannes. Elles sont syndiquées, elles sont affiliées, mais elles n'ont pas de journal, elles n'ont plus rien. Tout est à distance. Il y en a qui ne reçoivent même pas nos journaux. On abandonne les masses paysannes et ce n'était pas notre idée quand on a parlé du communisme libertaire. » Ça, ça va être la tendance la plus marquée qui va aller avec ce processus de l'ouvriérisme, de primat de la production et de la production urbaine et industrielle. Voilà, la CNT va devenir un syndicat essentiellement qui va s'occuper des ouvriers urbains. Et ça va avec cet abandon de certains principes fondamentaux du communisme libertaire. Donc il va y avoir des crises en rapport avec ces tendances et des stratégies qui en découlent, puisque les communalistes vont toujours privilégier les mouvements insurrectionnels, de préférence qui partiront des campagnes, qui vont se produire avec proclamation du communisme libertaire. Il va y avoir des mouvements qui vont se succéder entre fin 32 et fin 33 et qui échoueront tous de manière très nette. Que ça parte dans des communes villageoises ou que ça parte dans des milieux plutôt urbains en Catalogne, en tout cas, ça ne marche pas. La population ne suit pas. Il y a une répression très, très sévère qui vient juste après. En Andalousie, en Aragon, en Catalogne, il y a plusieurs foyers.
Mais qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, du coup, l'échec de ces mouvements insurrectionnalistes ?
que Juan Peiro, Pestaña et d'autres, le courant industrialiste, dit vous voyez bien qu'on ne peut pas fonctionner comme ça, il faut revenir à la lutte syndicale classique, revendicative, appuyée, en déployant un mouvement ouvrier très fort, avec de fortes valeurs morales, qui lui amènera l'opinion à sa lutte. Alors que les luttes insurrectionnalistes comme ça sont des luttes de groupes, de petits groupes qui n'entraînent pas la population. Ce en quoi ils n'avaient pas tort, mais ça n'empêchait pas le débat de continuer. De toute façon, les tensions vont être si fortes entre les deux courants et avec la tendance insurrectionnaliste et la tendance de lutte syndicale de type classique que de toute façon, il va y avoir une scission très importante en 1931 et une partie du mouvement donc, va se scinder en deux. Alors, après 1933, après l'échec de ces mouvements insurrectionnalistes, il n'empêche que le débat continue, et là, ça va être un débat théorique et à coup de brochures et de proclamations, d'articles. Et là, c'est, tout le monde ressent le besoin de mettre tout ça sur papier et de creuser quand même, de creuser un peu profond. Ça ne suffit pas les invectives dans les congrès, les engueulades, les grands cris, etc. Donc il y a une multiplication de documents, de textes. Et donc le courant industrialiste va s'inspirer, comme on disait tout à l'heure, de ce qui se passe en France et au sein de l'AIT. On va reprendre les textes de Pierre Bénard, de Cornelissen, de gens qui défendent un syndicalisme révolutionnaire, et certains comme Cornelissen qui défendent le principe d'une période de transition. Là, ça nous fait replonger dans ce que justement le mouvement anarchiste s'était éloigné de la social-démocratie qui avait défendu cette thèse-là. Et là, on y revient finalement d'une manière assez importante. Donc là, chacun va sortir sa petite brochure, va défendre son point de vue. Et dans, par exemple, les partisans du communalisme agrariste vont être défendus par Federico Urales, qui va publier une petite brochure qui s'appelle « Los municipios libres », l'organisation au niveau de la commune. Pour résumer un petit peu ce que son propos, il prône l'idéal de la commune agricole indépendante et le travail de la terre, je cite, « le seul acceptable contre le travail de l'ouvrier industriel qui ne lui inspire que répulsion et dégoût ». C'est des gens qui reviennent sur la notion de travail, mais qui expliquent bien que depuis que l'industrialisation et la génération du salariat, le travail qu'on oblige les salariés à faire et leur répugne fondamentalement. Alors, ils appelaient à décongestionner les villes et les industries, à réconcilier les villes et les campagnes, en créant ce qu'ils appelaient les agro-ciudades, les villes agraires, hein, si on peut dire, à partir des communes rurales, tout en rappelant que c'est dans les communes rurales justement qu'on avait connu un mode de vie solidaire et qu'il fallait renouer avec ça. Donc ils imaginaient un monde où il ferait bon vivre dans la mesure, déjà où on travaillerait moins, avec une utilisation modérée des machines. Donc, ce n'est pas des passéistes anti-machines, pas du tout. Ils disent, non, très bien, on veut bien, au contraire. On veut que l'homme s'épanouisse, qu'il ait une vie en dehors du travail. Et donc, si on peut travailler moins, on est partant. Mais avec une utilisation modérée des machines. Donc, je cite, « L'industrialisation sera strictement restreinte aux produits qui vont avec une vie simplifiée, où les besoins de l'esprit ont davantage d'espace et de temps pour se cultiver. »
Donc, c'est un petit peu l'idée que voilà, la technique doit rester au service des besoins de la commune et non pas devenir des impératifs impersonnels.
Imposer son tempo, ça, tout à fait. C'est très précisément signifié. Alors Santillane, qui va continuer aussi ses articles, lui pourfend les deux formes du fascisme, le taylorisme et la domination du procès de production sur le travailleur. Par exemple, c'est les termes de l'époque. Et en cela, il suivait Gustav Landauer, dont il était le traducteur en Espagne. On va citer un extrait qui est, de notre point de vue, très intéressant.
Tout ce qui se passe au sein de la production capitaliste ne peut mener qu'à une intégration toujours plus marquée en elle. Les travailleurs doivent comprendre qu'il faut sortir du capitalisme. Les peuples, la bourgeoisie et aussi la classe ouvrière se sont de plus en plus impliqués dans les conditions de la production spéculative, sans sens et sans culture, dont le but est de gagner de l'argent. Le capitalisme n'est pas une période de progrès, mais de déclin. Le socialisme ne naîtra pas au cours de l'évolution du capitalisme, ni du fait de la lutte des travailleurs en tant que producteurs à l'intérieur du capitalisme. Ce sont là les résultats auxquels nous sommes parvenus.
C'est Gustav Landauer en 1911. Un texte qui va être réédité juste avant sa mort en 1919. Ça s'appelle « Incitation au socialisme ». C'est des thèmes qui vont revenir de manière récurrente dans tous les écrits de cette époque-là. Donc là, c'est très important, et Santillane vraiment traduit ça et le diffuse, s'inspire de cette pensée-là, en tout cas encore en 1931. quand il diffuse les articles dont on a déjà parlé. Ce mode de vie au village, finalement, parce que certains se sont interrogés, mais comment tous ces militants urbains, parce que c'est des militants urbains qui travaillent, qui écrivent, qui militent et qui produisent cette idée-là de communauté agrariste. Et en fait, c'est des gens qui ont encore été très liés à leur commune d'origine. C'est des gens qui étaient venus des campagnes aragonaises, andalouses, de Murcia, etc. Et c'est des gens qui avaient encore le souvenir de ce mode de vie. C'était encore dans les mémoires, frais dans les mémoires, surtout les mémoires orales des gens, qu'il y avait des modes de vie solidaires beaucoup plus possibles à la campagne et que la ville étouffait ce genre de processus ou le rendait plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il le rendait impossible, mais que c'était plus... la vie en ville était devenue étouffante, l'air était mauvais, on vivait mal, on était mal logé dans des conditions effroyables. Donc les corps en pâtissaient. Donc ils estimaient qu'il fallait redistribuer tout ça, le rapport ville-campagne, il ne fallait pas vider les villes, il fallait les réorganiser et faire un rapport ville-campagne beaucoup plus intéressant. Et surtout, je cite un auteur qui s'appelle Javier Paniagua, qui était le seul en Espagne, à ma connaissance, qui s'est penché sur ces histoires des deux courants agraristes et industrialistes, qui a beaucoup cherché des citations de part et d'autre pour donner à voir ce que c'était. Et il dit pour ces gens-là, pour ces jeunes prolétaires urbains, l'agriculture représentait une sécurité et une liberté dans le travail que n'offrait pas l'industrie, où l'activité est monotone et sans créativité. Le projet communaliste resta ancré chez beaucoup de militants de la CNT, tant qu'il n'eut pas contre lui d'options syndicalistes assez consistantes pour s'attaquer à l'anarchisme classique.
Et en fait, ça c'est intéressant parce que finalement, une caractéristique de l'anarchisme espagnol, c'est d'avoir réussi plus ou moins tout au long de son histoire à maintenir quand même un lien entre la ville et la campagne, d'une certaine manière, entre un anarchisme rural et un anarchisme urbain, sans tomber dans des formes d'opposition radicale, comme on va retrouver dans beaucoup de pays, où finalement toutes les thématiques rurales vont être, bon, par exemple comme en Allemagne, beaucoup laissées à l'extrême droite. En France également, c'est le cas, même s'il y a des tentatives quand même assez importantes à la fin du 19e siècle. Tu citais un texte d'Élisée Reclus justement dans le volume 1. Malgré tout, il n'y a qu'en Espagne où ce lien va se maintenir, à la fois dans la théorie et aussi dans la pratique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une espèce d'exode rural radical, mais des allers-retours entre la ville et la campagne, en termes d'idées, de personnes, et aussi en termes de projets de société.
Et ça nourrissait, si on se bat comme ça en ville, c'est parce qu'on a cette idée-là devant nous, de vie à la campagne, et la ville et la campagne réconciliées dans une autre façon de faire. Donc c'est ça qu'ils exprimeront à cette époque-là, c'est ça qui les tenait. C'est ça qui tient lieu d'idéal, de motivation. Alors qu'ils vivent dans des conditions tout à fait différentes pour le moment.
Enfin voilà, justement, le fait qu'ils maintiennent un lien avec la société rurale, ça leur fournit un imaginaire qui n'est pas que celui du capitalisme. Ouais. Même si dans les sociétés rurales, c'est une société qui est dominée par l'aristocratie, les paysans doivent payer des impôts, donc c'est évidemment pas une société émancipée. Mais disons, il y a un horizon non capitaliste, pas tellement dans les rapports de domination qui s'y exercent, puisqu'ils sont évidemment c'est des rapports oppressifs, mais plutôt dans le type de lien, de solidarité, de rapport justement à l'activité de production, etc.
C'est là qu'on voit aussi qu'on est encore au premier stade du capitalisme, qui n'est pas, c'est pas encore dilué dans la société, hein, dans les rapports sociaux, autrement que sur le lieu de travail ou le mode de production stricto sensu. Comme dit Chris Elam, c'est les militants dans l'anarchisme qui ne sont pas du tout séduits par les sirènes de la consommation, de la culture de masse, du sport, tout ça, ça prend pas. Alors que ça commence à se répandre à la même époque en France, etc. Là, en Espagne, il n'y a pas de fascination, de séduction de ce genre-là. Est-ce que Seidman, alors là, c'est là aussi que je veux citer Seidman, qui a beaucoup apporté dans notre réflexion à ce niveau-là, qui est tombé à point nommé dans tout cet agencement de courants d'idées. Lui, ce qui nous avait frappé dans son livre « Ouvrier contre le travail » en France et à Barcelone sous les fonds populaires, c'est qu'il disait, à un moment donné, on voit que même chez les militants anarchistes espagnols, on voit évoluer ce rapport à l'industrie qui commence à prendre de plus en plus de place et à modifier les fondamentaux de ce mouvement-là. C'est lui qui l'avait formulé comme ça, qui nous avait indiqué cet agencement des courants, quoi. Et donc, effectivement, on voit au congrès de 1931 que le syndicat est posé comme une structure qui organisera la vie sociale après la chute du capitalisme. L'abolition du salariat a mystérieusement disparu. Et on voit que le courant industrialiste commence à prendre un ascendant sur le courant communaliste. Parce que le mouvement le plus frappant de ça, c'est que Abad de Santillane, dont on a cité le propos radicalement anticapitaliste et très profond, va basculer, mais complètement à l'opposé, en gros, entre 33 et 34. Entre 33 et 34, c'est la période où la crise de 29 qui s'est propagée dans le monde entier commence à avoir des effets en Espagne. Donc, on s'explique, certains ont essayé de comprendre aussi ce revirement de Santillane, et visiblement, il se dit à ce moment-là que le capitalisme est en train de tomber et que le mouvement ouvrier qui est puissant en Espagne et qui l'espère dans le reste du monde va devoir reprendre les choses, la production en main. Et là, il faut peut-être s'intéresser de plus près à comment fonctionne une usine, comment les lois d'économie, tout ce qu'il avait méprisé, critiqué, comme fascisme économique, le fordisme, le taylorisme, tout ça va être revisité par lui de manière presque admirative, quoi. Il va tomber dans une sorte de fascination qui va complètement le posséder, quoi.
En fait, il tombe un peu dans une vision du monde gestionnaire où la classe ouvrière n'est plus en opposition au capitalisme et vise à son abolition, mais plutôt est le futur gestionnaire de la société industrielle et salariale. Et bon, c'est un mouvement qu'on retrouve aussi dans d'autres courants, dans le marxisme, il y a eu cette même tendance, effectivement, gestionnaire. Et évidemment, avec une perspective gestionnaire, on ne peut pas rompre avec le capitalisme, et on ne peut pas rompre avec grand-chose, en fait. On se retrouve pris,
embarqué dans ses lois, dans ses principes, dans son tempo, dans tout. C'est exactement ce que Santillane va développer autant d'énergie qu'il avait mise, et d'écriture et de publication pour défendre le communisme réaliste. Il va en déployer tout autant sa force de frappe intellectuelle pour défendre ça. Et il va défendre ce qu'il appelle la nécessité d'une révolution réparatrice en fonction de la crise mondiale, économique mondiale, qui s'annonce, qui fait des dégâts maintenant en Espagne. C'est-à-dire qu'il veut bien se débarrasser du capitalisme, mais il faut que le syndicat soit à la hauteur de la situation. Il faut que le mouvement révolutionnaire répare tous les dégâts. Il dit le capitalisme, mais de toute façon, il a montré qu'il n'était plus capable même de gérer, de maîtriser la technique. C'est lui-même qui a mis en branle ce processus technique, mais il n'est même pas capable de la maîtriser. Nous, on va faire mieux. Nous, les ouvriers, on va faire mieux.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu la même rhétorique que dans le marxisme? C'est-à-dire que finalement, les forces productives dépassent finalement les capacités de la bourgeoisie à la gérer. Donc c'est la classe ouvrière qui doit reprendre ses moyens de production.
Il va dire le capitalisme est en crise parce qu'il ne sait pas s'adapter au progrès de la science. Je cite, l'industrie moderne est un mécanisme qui a son rythme propre. Le rythme humain ne détermine pas celui de la machine, c'est celui de la machine qui détermine l'humain. Donc autant il avait critiqué ce qu'on avait appelé le fordisme, le taylorisme, autant maintenant il vante les mérites de la rationalisation, de la taylorisation, je cite, qui supprime les mouvements improductifs de l'individu. Comme les marxistes, il va défendre l'évidente nécessité d'une économie planifiée. Il invite les prolétaires à s'identifier à l'appareil productif existant, à se soumettre au rythme de l'industrie moderne. Il va vouloir dégager complètement tous les principes fondamentaux du communisme anarchiste dont tout le monde avait hérité. Il invite au réalisme les militants omnubilés par le communisme libertaire, selon ces termes. Il les incite à se débarrasser radicalement de leur mentalité pré-industrielle, à dépasser l'infantilisme du communisme libertaire basé sur les prétendues communes libres et indépendantes propagées par Kropotkin et d'autres. Il propose véritablement de revenir aux fondamentaux et de s'en débarrasser. De la même manière, il va s'attaquer aux groupes d'affinités. Il dit les groupes d'affinités, ils n'ont aucune fonction spécifique dans la vie économique. On peut s'en débarrasser. Dans la future République des travailleurs, les hommes se coordonneront désormais par affinité de production et communauté d'intérêt. Il ramène tout au secteur de la production. Tout est ramené à ça. Et au tempo de la machine. Que le capitalisme, les capitalistes n'avaient pas su maîtriser. Mais parce qu'il fallait, ils voulaient pas s'y soumettre, fondamentalement. Il dit, mais il faut s'y soumettre, complètement. Nous-mêmes, les ouvriers, c'est même pas qu'on le maîtrisera mieux, c'est qu'on s'y soumet, accepter de s'y soumettre complètement. Et c'est comme ça, il va même parler plus tard de la seule révolution possible, c'est la révolution technologique. Tout le reste, c'est le temps des barricades, tout ça, c'était bien beau, mais c'est la rigolade. Non, la vraie révolution, c'est la révolution technologique. C'est quand même faramineux, quoi. Donc, par là, il posait tous les ingrédients qui vont permettre le passage du premier stade du capitalisme au second. Hein, parce qu'il faut vraiment que cette dynamique du capital, avec la suranisation du travail vivant, avec la mécanisation du travail, l'OST, etc., donc que l'homme accepte de se laisser lui-même déposséder de ses qualifications, se soumettre au rythme de la machine. C'est exactement ce que le capitalisme est en train de développer dans les autres pays et finalement va pouvoir se faire en Espagne grâce au syndicat de l'ORT et de la CNT, ce qui va se passer après juillet 36. C'est un mouvement qui vont mettre en branle, eux, et que certains patrons, même de sociétés américaines, de sociétés d'automobiles, l'usine Ford de Barcelone, que les ouvriers prennent en main. Les patrons américains vont revenir et saluer le mouvement ouvrier qui, mieux que la bourgeoisie, a su faire dynamiser la production.
Et finalement, une thèse quand même centrale de ton livre, c'est que on ne peut pas expliquer l'action de la CNT à partir de juillet 1936, c'est-à-dire son entrée au gouvernement, d'abord de la Généralité de Catalogne, puis au gouvernement républicain. On ne peut pas comprendre non plus le fait qu'ils abandonnent le projet de communisme libertaire, le fait qu'ils vont accepter, qu'ils vont avaler un certain nombre de couleuvres, la militarisation des milices, etc. etc. En fait, ton livre vise à montrer que ce ne sont pas les circonstances, ou pas principalement les circonstances qui auraient contraint, entre
de la
guillemets,
guerre et du coup d'État et de la guerre,
qui auraient contraint, entre guillemets, la CNT à opérer un virage réformiste, de collaboration antifasciste, mais qu'en réalité, il y avait déjà une espèce de préparation idéologique de la part d'une partie de la CNT, notamment de son appareil, à tomber dans une logique réformiste, de collaboration antifasciste avec l'État et avec la logique capitaliste. Donc voilà, ça, c'est pas tombé de nulle part. Et finalement, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que les circonstances ont permis la réalisation de ce programme, bon, dont on a vu ce qu'il a donné.
Parce que là, on est toujours dans les années 33-34. Hein. Tout ça se peaufine à ce moment-là. Et avec Santillane va être donc soutenu par Joan Peiro, donc il s'associe pour développer cette ligne-là, tout en disant qu'il s'inspire effectivement du régime, de la théorie du régime de transition de Cornelissen, qui est lui-même Cornelissen, qui disait
« Nous estimons que la réalisation progressive du régime communiste sera le fruit d'une longue éducation des hommes de génération en génération. Nous ne pourrons décrire les principes fondamentaux d'une civilisation communiste libertaire sans admettre la nécessité de l'existence d'une période de transition durant laquelle les us et coutumes de l'ancienne civilisation capitaliste exerceraient encore une forte influence sur toutes les institutions communistes. »
Voilà, donc Christian Cornelissen, ça c'est en 1933 qu'il écrit ça, il ajoutait qu'il fallait reporter à un avenir très lointain le respect du principe de « à chacun ses besoins ». C'est bien joli, mais c'est pas réalisable tout de suite, dans la mesure où on voudrait l'appliquer à la société entière. Donc on revient là vraiment aux prémices du mouvement communiste anarchiste.
C'est assez amusant parce que finalement c'est à peu près ce que dit Marx dans la critique du programme de Gotha. C'est que d'abord rester dans l'horizon borné du droit, donc à chacun selon son travail, et dans un horizon très lointain, effectivement, on pourra passer au communisme, c'est-à-dire à chacun selon ses besoins. Donc on voit finalement que dans le mouvement anarchiste, il y a ce même horizon du communisme, disons, qui s'éloigne, 50 ans après le marxisme, mais qui s'éloigne quand même.
Et ce mouvement dont on avait célébré, avec la citation du début, on célèbre l'anarchisme, le mouvement anarchiste, comme le creuset qui va faire face à la social-démocratie qui se déploie avec les marxistes et socialistes réunis de la Deuxième Internationale, qui défendent de ce point de vue-là, de la période de transition. Et là, on voit la CNT qui ravale tout ça et qui propose de s'aligner sur le programme social-démocrate. Et Santillane rajoute pour sa part, si nous combattons la structure économique et sociale capitaliste, c'est parce qu'en elle, le travail n'est pas récompensé comme il le devrait. Nous voyons pour nous, anarchistes libertaires, succéder à la chute du capitalisme une période longue et pénible de travail. Ça, ça annonce ce qui va se passer, effectivement, les appels au sacrifice et à se dédier corps et âme, sans compter, au travail, les mots d'ordre qui vont émaner de la CNT et de la FAI dès fin juillet 36.
Ça, c'est un discours typique des pays dans lesquels, en fait, il est question d'une modernisation de rattrapage et dans lesquels on veut convaincre une génération qu'elle devra se sacrifier quasiment, hein, travailler, souffrir longtemps pour les générations futures.
Oui, et d'ailleurs, on retrouve le même discours chez un responsable de la social-démocratie allemande qui dit que le socialisme, c'est travailler beaucoup.
Oui, Et il y en a un des staliniens qu'on va voir en Espagne aussi, militer pour ça. Il va dire, parce qu'avant, il y avait une formule qui ne travaille pas, ne mange pas, hein, contre le parasitisme de l'aristocratie, de la bourgeoisie. Alors les ouvriers, eux, on va imprimer ce nouveau slogan. Et lui, il rajoutait, et maintenant, il faut et travailler et moins manger. Travailler plus et moins manger. Il ira jusque-là. Quoi. Pour dire jusqu'où ça va aller, l'appel au sacrifice, donc, on ne fera pas s'étonner ce que tout ce qu'a remarqué Seidman, qui fait l'objet de son bouquin, la moitié de son livre « Ouvrier contre le travail » à Barcelone, c'est que la productivité va baisser de manière drastique dans les usines collectivisées ou sous contrôle ouvrier de Barcelone, et on va voir que cet appel au sacrifice, ça ne marche pas du tout. Quoi.
Oui, au contraire, il va y avoir de l'absentéisme.
Une désaffection, et puis un dégoût, une passivité, et tout ça en creux. Une désappétence pour un mouvement qui était censé être le leur et dont on les a dépossédés depuis le 20 juillet 36, parce que dès le 20 juillet 36, on dit pas de communauté libertaire, on leur dit ça, c'est pas au programme. Hein. On a mais travaillé beaucoup. Donc après, on s'étonne qu'il y ait peu d'enthousiasme dans les usines de Barcelone et tous les syndicalistes, tant de l'OCT que de la CNT, disent « Mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Le problème, c'est les ouvriers. Il faut en convenir, ils vont dire dans un texte de 37 ou 38 « Le problème, c'est pas la bourgeoisie, le problème, c'est pas les capitalistes, c'est les ouvriers, ils veulent pas bosser. » Ils vont tous se demander de manière ahurie comment ça peut se passer comme ça.
Parce qu'ils se retrouvent justement dans cette position de gestionnaire d'une économie de guerre. Et donc là, ils voient qu'en fait, le principal frein à la production capitaliste de manière générale, c'est la non-collaboration volontaire et enthousiaste des ouvriers. Que ce soit dans un régime de capitalisme libéral ou que ce soit dans un régime de capitaliste sous contrôle ouvrier ou avec des usines collectivisées, etc.
Donc ça, on anticipe sur le volume 3 dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que ça sera un peu trop long. Mais dans le volume 3, je développe, comme tu l'as dit. C'est pour ça qu'il est important de développer tout ce qu'on a écrit dans les volumes précédents pour comprendre où je veux en venir, ce fil dont tu parlais. C'est qu'effectivement, on voit bien que ça ne colle pas cette histoire tout d'un coup. Le programme communiste libertaire comme il a été décidé avec le vote de la motion au congrès de Saragosse, ce programme-là aurait dû être mis en pratique et il n'a pas été juste à cause de la guerre. Non, c'est bien pour d'autres raisons. Donc juste pour finir quand même, parce que c'est important de revenir là-dessus, c'est l'époque en 1933 où sort le programme communiste libertaire d'Isaac Puente. Donc c'est le point d'orgue de tout ce processus de polémique, de discussion à travers des brochures et des textes. Et là, Isaac Puente, c'est un médecin anarchiste de Vitoria qui va s'atteler à la rédaction d'une brochure très précise, très concrète, qui va être tirée et retirée pendant 2-3 ans et publiée dans la presse, publiée sous toutes les formes possibles. 100 000 exemplaires, elle va être extrêmement lue par le prolétariat militant espagnol. Alors, dans le programme de Puente, c'est le seul programme que je connaisse dans l'histoire, un programme communiste libertaire aussi circonstancié qui va être proposé. En plus, sous un mode de discussion, hein, parce que déjà, ça paraît sous forme d'article dans la presse Solidarité Obrera, pour que les gens le lisent et fassent remonter des remarques. Et là, c'est là qu'on voit vraiment que le mouvement de la CNT est un mouvement de base en haut, et une circulation des idées, des discussions et des thèmes. Ça va effectivement beaucoup aller et venir au niveau des syndicats uniques, des quartiers, de certains villages, etc. Donc après, quand il se bien peaufiné, il sortira sa brochure en ayant pris en compte tous les retours qu'il avait eus. Donc on va vous lire un passage essentiel de ce programme. Donc, dans le programme de Isaac Puente, évidemment, on procède à l'abolition, une fois le capitalisme foutu en l'air, abolition de la propriété privée et de toute autorité. Toutes les décisions sont prises à l'Assemblée Générale. Le municipio libre, la commune rurale, enfin la commune en tout cas rurale, ou le quartier, sera l'élément fondamental de l'organisation rurale pour la campagne, car il représente une institution enracinée et très ancienne. Les ouvriers de l'industrie se serviront du syndicat, l'organisation vers laquelle vont spontanément les producteurs. Bon, lui, il tente de concilier aussi les deux tendances. Il reconnaît que normalement le syndicat ne peut plus être en charge de la gestion de la vie sociale après la chute du capitalisme, mais lui, il l'introduit en disant « on va essayer de faire couler les deux courants, essayer de réconcilier tout le monde comme ça ». Donc on procédera évidemment à l'abolition du salariat, mais le travail restera obligatoire pour les membres utiles. à chacun selon ses besoins sera la formule adoptée. Donc selon la période d'abondance, ce ne sera pas sans problème. S'il y a des problèmes de pénurie, on rationnera ce qui est rare. La distribution des produits à consommer se fera via les coopératives et l'argent sera remplacé par un carnet de producteurs ou de rationnement. Et un point très important, il n'y aura plus de valeur des produits. On va vous expliquer un peu pourquoi.
Échange de produits entre localités. On donne le surplus, on prend ce que d'autres offrent et qui est nécessaire. Les échanges de produits entre localités se font sans équivalence de valeur, car ils sont tous équivalents du point de vue de leur nécessité, quel que soit le travail qu'ils ont demandé ou l'utilité qu'ils représentent. La notion de valeur est étrangère à l'économie libertaire, il n'y a donc aucune raison de la mesurer avec la monnaie. L'échange avec équivalence de valeur ne se pratique que dans les pays bourgeois.
Donc là, effectivement, c'est rare de trouver des textes de cette époque-là mettant en question comme ça la notion même de valeur marchande. Hein. On ne comptabilise plus l'effort humain, on ne comptabilise plus la valeur des produits. Voilà, on en finit le capitalisme, c'est ça. Il est bien conscient que c'est ça qu'il faut liquider et pas simplement l'exploitation de l'homme par l'homme, l'abolition du salariat sous sa forme, disons, un peu plus morale. Quoi. Là, c'est vraiment le cœur de cible pour lui du capitalisme, c'est ça. Et il propose de s'en débarrasser. Donc voilà, c'est un texte pour l'époque qu'on trouve...
Même si on peut y voir encore, une alternative posée entre une valeur d'usage et une valeur d'échange. Je parle de valeur de nécessité, en gros c'est la valeur d'usage. Donc ça veut dire qu'il c'est pas non plus tout à fait une critique de la valeur en soi, hein, au sens où Marx peut l'avoir théorisé, c'est encore quelque chose qui est du côté de la valeur d'usage défendue contre la valeur d'échange.
Par rapport en tout cas à l'anticapitalisme, de l'anarchisme espagnol et du projet communiste libertaire, c'est vraiment le plus pointu qu'on puisse trouver à cette époque-là. Quoi.
Oui, et d'autant plus que finalement, s'il appelle à une abolition de la production marchande, à terme finalement, il y a aussi une abolition de la valeur d'usage, puisque les produits ne sont plus produits en tant que marchandises, même si elles n'ont pas de valeur d'échange, mais elles sont produites simplement parce qu'elles répondent à des besoins.
Besoins qu'on mettra en place à travers ce qu'il appelle un carnet de rationnement, ce qui va s'expérimenter en Aragon. Contrairement à ce qui va se passer à Barcelone, pour anticiper dans le volume 3, en Aragon, les communistes libertaires du comité régional d'Aragon vont, eux, embrayer immédiatement dans ce projet-là. Et entre-temps, il faut signaler qu'on va expliquer peut-être, parce que j'avais dit qu'il y avait une montée du courant industrialiste et de tous leurs thèmes qui commençaient à devenir, se généraliser, mais ce texte de Puente va bouleverser visiblement la donne, puisqu'il va avoir un succès fou, et que lors du congrès, le 4e congrès de la CNT de mai 36, donc 2-3 ans après, c'est la diffusion incessante de ce libelle, cette petite brochure. Un des militants les plus partisans du possibilisme, du réformisme syndicaliste, qui s'appelle Horacio Prieto, va proposer une motion sur le communisme libertaire. Et aux surprises, quand cette motion va être rédigée et votée après beaucoup d'allées venues, toujours pareil avant, des semaines avant, dans la presse, les débats, les motions sont mises à discussion. Et il va revenir, ce projet, cette motion de communisme libertaire va reprendre quasiment toutes les thèses communalistes classiques. Aux grandes dames de Santillane, Peiro et d'autres qui vont dire « Mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? C'était fini tout ça ?» Moi, je pense que c'est le succès de la brochure de Puente qui va populariser de nouveau ce thème de la communauté libertaire. Parce que Santillane et d'autres sont tellement outrés qu'ils disent qu'il y a une manipulation. Les communistes, les vieux communistes libertaires, ils ont manipulé l'émotion pour se mettre au niveau du militant moyen. En plus, on voit un terme très dépréciatif. On imagine l'effet que ça peut produire. Donc pour eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est fini tout ça, on avait dit que c'était terminé. Or, deux mois, trois mois après, le coup d'État commence, juillet 36, donc le processus révolutionnaire se met en branle. À Barcelone, en 2-3 jours, il est décidé de pas du tout aller dans le communisme libertaire. Et c'est les gens, Peiro, Santillane et d'autres, qui sont à la manœuvre, aux commandes, à l'économie à l'industrie. Ils vont devenir un ministre anarchiste, etc. etc. Et en Aragon, eux disent, nous, on a voté la motion... On a voté et bien reçu la motion sur le communisme libertaire. On n'a pas de raison de différer le processus. Nous, on y va. Voilà comment ce que j'appelle, moi, un dédoublement du mouvement libertaire anarcho-syndicaliste, y compris la faille, hein, qui va se dédoubler aussi. Une partie du mouvement va se lancer dans le projet communiste libertaire, l'autre partie va le freiner.
Oui, c'est intéressant parce que finalement, on pourrait avoir tendance à penser que c'est lié à la situation différenciée de Barcelone et de l'Aragon, à une différente appréciation des circonstances, mais en réalité, les gens qui se retrouvent, disons, aux commandes, entre guillemets, du mouvement anarchiste en juillet 1936, ont déjà des options bien précises de ce qu'ils veulent dans le cas d'une situation telle que celle qui va être...
Mais à Barcelone, ça a doublé d'un hiatus très important entre ce qu'on va appeler les comités directeurs de la CNT de la FAIC. La démocratie interne ne fonctionne plus. Quand ils font un appel, dès le 20 juillet, ils font un appel à la militance pour ne pas se lancer le comité libertaire, c'est sans retour, c'est pas en discussion. C'est comme ça, c'est décidé. Et les semaines qui suivent, il va y avoir des appels aux militants pour qu'ils arrêtent de discuter cette décision. Elle est prise. On n'en discute pas. C'est effarant. On ne reconnaît plus le mouvement. Donc à Barcelone, il va y avoir un choc terrible, un malaise grandissant entre un tas de militants qui vont se rendre compte qu'en plus, les militants intermédiaires, ils sont chargés de répercuter ces décisions auprès de la base, qui, pendant un moment, ne comprend rien, parce que pendant des semaines, à Barcelone, c'est la folie révolutionnaire qui s'empare de la ville. Dans les quartiers, tous les groupes, les Athénées, les jeunes libertaires, les groupes d'affinité, les syndicats de base, tout démarre en processus. Eux aussi, ils ont entendu le projet, le vote de la motion au Congrès de Saragosse. Ça ne fait pas un pli que nous, on y va aussi. Donc eux, ils démarrent un processus, et au bout de quelques semaines, ils arrivent à entendre ce qu'on leur dit dans la soli, qu'on leur répète tous les jours. Pas de communisme libertaire, on diffère ce projet, ne discutez pas de décision. Il faut imaginer le trouble que ça a provoqué à ce niveau-là. Donc on a une situation très très complexe, confuse, douloureuse qui va se dérouler pendant quelques semaines à Barcelone, en Catalogne, dans les lieux forts de l'anarcho-syndicalisme et le milieu communiste libertaire. Il y aura une tension terrible. Et ça sera l'objet de notre émission.
Effectivement, ce basculement un peu autoritaire et bureaucratique un peu de la CNT qui va pas être compris des militants de base et c'est pas tellement une trahison mais disons un non-respect disons de la démocratie interne de la CNT qui va faire que il va y avoir voilà un certain découragement de la part des militants de base. Il y en a qui vont évidemment avec les Los Amigos de Durruti, va y avoir quand même encore une partie de la base de la CNT qui va chercher à se révolter contre cette situation, mais d'une certaine manière, le mal est déjà fait.
Très rapidement, en octobre, puisque l'État n'est pas aboli, et que la CNT accepte de ne pas l'abolir et va collaborer avec lui, ils vont accepter de voter une série de décrets, dont le principal, c'est la dissolution des comités révolutionnaires. Toute la militance de Barcelone qui s'était lancée dans les comités de base révolutionnaires, de quartiers, d'usines, de tout ce que tu voudras, on leur dit « rendez les armes et arrêtez tout ». C'est l'État maintenant qui prend en charge, et nous on est tellement forts qu'on contrôle l'État. C'est pas grave.
Ce qu'on peut dire en conclusion de cette émission consacrée donc au volume 2 des chemins du communisme libertaire en Espagne, c'est que finalement... tous ces débats à l'intérieur de la CNT de 1910 à 1936 vont déterminer en partie le cours, disons, de l'action du mouvement anarchiste pendant la guerre d'Espagne, et que c'est pas simplement la guerre d'Espagne qui va déterminer l'autolimitation en termes de révolution de la CNT, mais qu'au contraire, c'est déjà préparé par une série de reniements...
Une partie du mouvement.
D'une partie du mouvement, et... qui est effectivement symbolisé de manière assez caractéristique par Sainte-Tillane, qui abandonne un programme révolutionnaire centré sur le communisme libertaire pour passer à une approche gestionnaire, industrialiste et syndicaliste du capitalisme. Donc on espère en tout cas que ça vous aura donné envie de lire ce passionnant volume 2, donc, qui est sorti aux éditions Divergence en 2018, qui est un très beau livre, bien plus développé que tout ce qu'on a pu dire.
Et déjà signaler que le volume 3 est sorti, même si on n'en parle pas aujourd'hui, il est sorti en mai 2019, et on va arrêter là même, on va arrêter cette trilogie, ça va s'arrêter à la trilogie, on n'ira pas plus loin.
Voilà, mais ça fait déjà pas mal de lectures, puisque si on groupe tous les ouvrages d'hyménologie, il y a 2500 pages à peu près voilà, à lire, mais c'est vrai que si on veut commencer plus sur un aspect historique, et synthétique, les trois volumes des chemins du communisme libertaire en Espagne sont voilà, une porte d'entrée, je trouve, la meilleure sur l'histoire de l'anarchisme en Espagne. C'est un travail de synthèse qui n'avait pas été fait précédemment ou qui était incomplet ou qui couvrait pas toute la période.
Avec beaucoup de traductions de textes en espagnol introuvables en français. C'est ça aussi qui est intéressant, en tout cas même dans le travail qu'on a fait, quoi, de découvrir les débats, les polémiques internes et de les traduire. Parce qu'en français, il n'y avait pas grand-chose. En France, de traduire, il n'y avait pas grand-chose.
Voilà, donc c'est finalement un travail de synthèse, de traduction et en même temps de critique, puisque évidemment, ces trois ouvrages proposent une autre vision de l'histoire de l'anarchisme espagnol que celle qu'on trouve dans, disons, l'historiographie ou la géographie anarchiste traditionnelle, écrite dans l'exil après 1945, et qui, justement, n'abordait pas de front ces questions problématiques, finalement, qui ressortent dans
le livre. Il y a eu un refus de tirer un bilan de ce qui s'est passé. Et ça, c'est que quelqu'un comme Vernon Richards, qui a écrit « Enseignement de la Révolution espagnole », un livre qui a été traduit dans les années 60 et réédité maintes fois, c'était un des premiers à dire « mais il faut faire ce bilan ». Il avait vraiment déjà commencé à pointer les problèmes de manière assez importante, et il n'a pas été suivi, quoi. Ce bilan n'a pas été tiré, c'est pas vrai.
Voilà, donc en tout cas, on pourra tirer un bilan à la lecture donc, de ces trois ouvrages parus aux éditions Divergence entre 2017 et 2019, et on retrouvera les géminologues dans une future émission consacrée à une nouvelle histoire de la Révolution espagnole de 1936-1939, qui corrigera, approfondira celle qu'on avait déjà fait avec eux en 2016.
D'accord.
Voilà, merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.